sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La séance est ouverte. Chers amis, l'actualité nous invite à saluer aujourd'hui la mémoire du président Nelson Mandela. Avant d'ouvrir cette belle coupole, je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'installation de M. Ousmane Sow, élu membre associé étranger de notre Académie le 12 avril 2011, au fauteuil précédemment occupé par Andrew Weiss. Cette cérémonie revêt une dimension historique pour notre compagnie, puisque M. Ousmane Sow est le premier artiste africain à être reçu parmi nous. Je tiens, au nom de l'Académie, à saluer la présence du représentant de M. le Président de la République du Sénégal, M. Abdouaziz Mbaye, ministre de la Culture et du Patrimoine du Sénégal. La parole est à M. Jean Cardo.
Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Madame le représentant de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le défenseur des droits, Madame et Messieurs les élus, Monsieur le chancelier, Monsieur le président de l'Académie des sciences, Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Un beau matin, sur le pont des Arts, nous avons vu surgir d'étranges sculptures, un peu dérangeantes, venues d'ailleurs. Des sculptures qui ne ressemblent à aucune autre. Des sculptures qui ne ressemblent qu'à vous, cher Ousmane Sow. Les Indiens de Little Bighorn, au milieu des lutteurs Nuba, des farouches guerriers Zoulous, des Maasai et des bergers Peuls de la savane. Sur le pont des Arts, entre le Louvre et l'Institut. Quelle audace, mais quel succès! On évoque 3 millions de visiteurs. Après cela, qui aura encore la prétention d'annoncer la mort de la sculpture? De l'audace, vous n'en manquez pas. De l'audace et du courage. Sous la plume de vos biographes, Béatrice Soulé et Jacques-André Bertrand, votre vie tient du conte et du roman picaresque. Il est question d'une grand-mère, Diop Diop, d'une noble lignée, de son cousin Lats Dior, qui combattait les Français, et de son oncle qui rasiait des villages et parfois aussi les hommes, qualifiés pudiquement de prisonniers de guerre, comme ce grand-oncle venu du Nord que vous avez connu chez votre grand-mère et pendant la guerre, et qui faisait partie de votre famille. Vous êtes né à Dakar en 1935, d'une mère sainte-louisienne et d'un père dakarois de 30 ans son aîné. Vous grandissez dans un des quartiers les plus chauds de Dakar, entouré de 9 frères et sœurs. Vous héritez de votre père une éducation très stricte, la rigueur, le sens du devoir et un esprit libre. Après la mort de votre père, vous découvrirez une croix de guerre avec 5 citations, dont 2 palmes. Votre père était à Verdun, comme le mien, Gazé, comme mon père. Verdun, votre père était de ceux qui sont revenus de l'enfer et qui n'en parlent jamais. Enfant, vous ramassez des pierres sur la plage et vous les sculptez. Vous renouvelez ce geste comme vieux comme l'humanité. Vous avez l'instinct du sculpteur. Le maître d'école exposera l'une de vos œuvres sur le haut de l'armoire de la classe. Ce sera votre seul tableau d'honneur, mais quel encouragement à persévérer. Vous dites que la chose la plus mortelle, c'est la répétition. On n'enseigne presque plus la sculpture dans nos écoles d'art, où la littérature semble avoir pris le pouvoir. Le rôle de l'école n'est surtout pas de formater des étudiants aux tendances et aux modes du moment. Il faut donner la liberté à nos enfants, leur enseigner que nul ne détient la vérité, que l'acte de création est un acte de liberté et nos écoles sont là pour leur donner tous les outils de la liberté. Dans ma jeunesse, j'ai eu plus de chance que vous, à cause ou peut-être grâce au bombardement du lycée de Saint-Étienne, j'ai pu entrer à l'école des Beaux-Arts à 13 ans, avec une dispense d'âge. Et depuis ce moment, matin, soir et tous les jours de la semaine, je n'ai plus fait que ce qui me plaisait, la sculpture. Il vous faudra attendre vos 50 ans pour ne plus faire que ce qui vous plaît, la sculpture. Ne regrettez rien dans la sculpture, le plus dur, ce sont les 60 premières années. Votre œuvre est faite de patience. Il semble que c'est dans votre nature. Vous avez mis au point un produit dont vous recouvrez vos sculptures, une sorte d'enduit que vous modelez et qui vous a demandé des années de préparation. À ce propos, vous dites « J'ai surtout eu la patience de laisser que les choses se fassent. » Vous dites encore « Le mérite que j'ai eu, c'est de laisser passer le temps. » Lorsqu'on vous demande pourquoi vous n'avez pas montré vos sculptures plus tôt, vous répondez « Il faut laisser mûrir son discours. Peut-être que je n'étais pas prêt. C'était un mûrissement, je n'étais pas pressé. Je savais qu'il me faudrait montrer mon travail, mais je ne savais pas où. Ce n'était pas très important pour moi. » À la mort de votre père, vous décidez de partir pour Paris. Vous avez 22 ans. Ici commence le roman picaresque. Vous n'avez pas un sou en poche. Vous aviez 500 francs. 500 francs anciens. Nous sommes en 1957, un café croissant, 250 francs. Le dernier, celui qu'on déguste en prenant tout son temps. Vous laissez la monnaie au garçon. Maintenant, vous n'avez vraiment plus un sou en poche. Il fait froid. Un ami vous dit qu'à Paris, on peut dormir dans les gares ou les commissariats. Vous choisissez les commissariats, c'est plus sûr. Vous commencez par celui de la rue Soufflot. On vous ouvre une cellule, on vous donne une couverture, et au matin, les agents, qui, comme chacun sait, sont de braves gens, partagent avec vous leur petit déjeuner. Il ne peut s'agir, hélas, que d'un hébergement temporaire. Les agents solidaires font appel à leurs collègues des autres commissariats qui vous hébergent à leur tour. Au bout de quelques semaines, vous auriez pu écrire le guide du routard des commissariats. Il faut aussi se nourrir. Pour vous, ce n'est pas tous les jours. Vous entrez dans une boulangerie avec un ami, vous hésitez entre une tablette de chocolat et une baguette de pain. La boulangère vous offre les deux et vous invite à revenir chaque jour. Je ne sais pas si vous le devez à la traditionnelle hospitalité de notre beau pays ou au charme du grand Sénégalais que vous êtes. Peut-être un peu des deux. Je me souviens, moi aussi, d'une jolie boulangère, c'était à Paris, rue Didot, mais, pardonnez-moi, je m'égare. Vous ferez des petits métiers. Débardeur au hall, qui, à l'époque, animait encore le cœur de Paris et fournissait du travail aux étudiants. Vous êtes enfin embauché à l'hôpital Laennec. On vous fait dégager la neige des trottoirs et cela ne vous plaît pas. Vous réussissez le concours d'infirmier, vous deviendrez kinésithérapeute à l'école de Boris Dolto. Ce sera, selon votre expression, votre métier de substitution. Car la passion de la sculpture ne vous a jamais quitté. À votre arrivée à Dakar en 1965, vous organisez le premier service de kinésithérapie à l'hôpital Le Dantec. Vous construisez vous-même le matériel de rééducation. Vous continuez de sculpter, mais il ne reste rien de cette période. Comme vous le dites, ce n'était pas très important pour vous. Votre première exposition a lieu à Dakar. Vous êtes retourné vous installer définitivement en 1980 au Centre culturel français. Ce sera la série des Noubas. Vous dites « Avoir travaillé sur le corps humain m'a permis la liberté ». Je sais jusqu'où aller sans faire un monstre, sans défigurer. Je connais les limites. Quelqu'un qui ne connaît pas le corps humain, qui n'a qu'une connaissance théorique des proportions, n'a aucune liberté. La liberté, toujours. Vous dessinez bien, mais comme beaucoup de sculpteurs, vous préférez sculpter directement sans passer par le dessin. Vous pensez que si vous dessinez, l'œuvre est déjà terminée. Alors qu'en sculptant directement, vous lui laissez une liberté. Vous pouvez être agréablement surpris, l'objet bouge dans la tête et vous en avez la maîtrise tout entière. C'est ce que Paul Valéry appelle la résonance de l'exécution. Le fait d'avoir été kinésithérapeute vous a énormément aidé, vous a décomplexé par rapport au corps humain. En somme, une façon d'aborder l'académie humaine sans passer par le dessin. Pour vous, la connaissance de l'anatomie permet toutes les audaces. À propos de Rodin, vous dites fort justement, lorsqu'on connaît l'anatomie et qu'on observe le penseur, son avant-bras est plus court que son bras et le muscle de l'épaule descend très bas. Il l'a fait volontairement, car la sculpture n'aurait pas eu la même force si tous les éléments anatomiques avaient été à leur place. Il faut exagérer et Rodin exagère. Ce que vous aimez chez Rodin, c'est l'audace. J'ajouterai que cette liberté, cette audace, se retrouve aussi dans Victor Hugo et dans Balzac, et finalement, dans presque tout Rodin. Pardon. Grâce à notre confrère Marc Ladré de la Charrière, j'ai pu approcher la Victoire de Samothrace en cours de restauration. La toucher, la caresser, quelle émotion! Il faut s'être frotté à la taille de la pierre pendant des années pour comprendre. Cette compréhension ne relève ni de l'histoire, ni de l'esthétique, ni en aucune façon du verbe. À côté de l'intelligence du verbe, il y a l'intelligence de la main. J'ai vu récemment un bronze de Chine trois fois millénaire, j'y ai reconnu le geste et même l'outil du sculpteur, et j'ai ressenti l'émotion de me sentir un lien, parenté avec lui. À l'autre bout de la terre, l'Afrique a aussi inventé la fonte, et sa sculpture a nourri l'art moderne. Notre langage, c'est la sculpture, il est universel. Vous n'êtes pas très sensible à la sculpture grecque qui vous paraît froide. Vous admirez Rodin et surtout Giacometti, en qui vous voyez le génie à l'état pur. Vous aimez aussi Bourdelle, Maillol, Camille Claudel. Votre sculpture n'échappe pas à leur influence, mais il s'y ajoute une dimension profondément africaine qui ne ressemble qu'à vous. Finalement, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous faites. Des sculptures qui racontent leur propre histoire sans que vous ayez à vous en mêler. Vous aimez raconter des histoires, des séries, comme à la télévision. Vos sculptures parlent entre elles, elles se regardent. Ce sont parfois des superproductions, comme la série consacrée à la bataille de Little Bighorn, ultime victoire d'un peuple avant l'extermination ou l'asservissement. Pas moins de 35 sculptures, hommes et chevaux. Les combattants s'affrontent en duel singulier entre les chevaux blessés qui roulent sur le sol. Pour Emmanuel Daïdé, c'est le Guernica de Picasso qui vient à l'esprit devant ses soldats à terre pratiquant leur rituel de mort, ou ces amas de chevaux blessés qui redressent la tête pour réunir longuement à la mort. Le Whitney Museum à New York accueillera en 2003 une partie de cette série sur la bataille de Little Bighorn. Vous avez attendu longtemps pour montrer vos œuvres, mais le succès vient rapidement. Dès 1990, vous êtes invité à la Documenta de Cassel, la Mecque de l'art contemporain. Vous négligerez de répondre aux deux premières invitations, et ce n'est qu'à la troisième, et sur les instances d'un ami, que vous vous décidez en 1993. Puis en 1995, vous exposez au Palazzo Grassi, à l'invitation de Jean Clair, pour le centenaire de la Biennale de Venise. Au printemps 1999, c'est votre exposition sur le Pont des Arts. Pour vous, l'Afrique est aussi un champ de lutte et de combat. On lutte pour conquérir l'espace. On lutte pour conquérir la femme qu'on aime. La lutte est une façon d'exister, de reconnaître l'autre. En 1984, vous commencez ce qui est un peu votre œuvre emblématique, la série des Noubas, inspirée par les photos de Leni Riefenstahl. Chez ces lutteurs du Sud-Soudan, le combat est avant tout un langage spirituel et une façon de mesurer son courage. Les lutteurs se peignent le corps et le visage. Ils savent qu'en combattant, ils risquent de se faire défigurer. Les jeunes femmes Noubas se mettent en valeur par des scarifications, sortes d'arabesques faites de petites incisions pratiquées sur la peau. À la fin des combats, elles ont le privilège de pouvoir choisir leur mari en leur passant la jambe par-dessus l'épaule. En 1988, naîtront les Maasai, en 1991, les Zoulous et enfin en 1993, les Peuls. En 1991, vous achetez le terrain sur lequel vous construisez votre maison, qui ressemble à une sculpture née de votre imagination. Recouverte entièrement de votre matière, murs et carreaux, elle représente symboliquement le sphinx. Elle est la préfiguration de la future série que vous imaginez sur les Égyptiens. En 2001, vous commencez à faire fondre vos œuvres par la fonderie de Coubertin. C'est là que nous faisons connaissance et que nous nous rencontrons souvent. En regardant mes sculptures, vous me dites « Ça, c'est de la sculpture. Comment voulez-vous, comment veux-tu ? Après cela que nous ne soyons pas devenus des amis. » Vous confiez à la fonderie de Coubertin, qui n'a cessé depuis d'être votre fondeur, la réalisation de 3 bronzes. La danseuse aux cheveux courts, Chéri Nouba, le lutteur debout, Chéri Nouba, et la mère et l'enfant, Chéri Maasai. Ces 3 pièces ont été exposées au printemps 2001 à Paris au musée d'Appert. Cette même année, vous répondez à une commande pour les comités internationaux des Jeux Olympiques et vous créez le coureur sur la ligne de départ. Aujourd'hui installé au musée des Jeux Olympiques à Lausanne où il a rejoint mon Coubertin. Vous entreprenez la réalisation d'une série de petites sculptures Noubas, aboutissement de la série des grandes sculptures Noubas, réalisée en 1984, série à laquelle vous ajoutez de nouveaux thèmes. En 2005, Youssman Sow fait son entrée au Petit Larousse. Le maire de Genève vous commande une œuvre destinée à son combat pour la régularisation des sans-papiers. Cette œuvre intitulée « L'émigré » a été installée au cœur de Genève en 2008. L'année suivante, vous réalisez la sculpture de l'épée d'académicien de Jean-Christophe Ruffin. Cette sculpture représente Colombe, le personnage emblématique de son œuvre « Rouge Brésil ». Le Muséum of African Art de la Smithsonian Institution à Washington acquiert aux enchères une œuvre que vous avez réalisée en 1989 pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, Toussaint l'Ouverture et la vieille esclave. Cette pièce fait partie d'un groupe de sculptures incluant Marianne et les révolutionnaires dans les collections du musée du Quai Branly. Pour son installation, le Museum of African Art vous dédie une salle spéciale incluant l'œuvre et une exposition de photographies d'atelier accompagnée d'une projection permanente du film Youssman Sow, réalisé par Béatrice Soulet, à qui nous devons aujourd'hui ces images. En 2011, à l'occasion du déplacement du monument aux morts de Besançon, parc des Glacis, vous réalisez une œuvre intitulée « L'homme et l'enfant », destinée à compléter, à l'été 2013, un ensemble des 3 sculptures existantes. En représentant cet homme et cet enfant, dont on perçoit seulement la forme sous le manteau, vous souhaitez mettre en lumière l'action de ceux qui, au péril de leur vie, ont protégé ou sauvé des personnes. En 2013, reprenant le thème développé dans Toussaint l'Ouverture et la vieille esclave, vous répondez à une commande du musée du Nouveau Monde et réaliser une nouvelle effigie de Toussaint Louverture qui sera installée en bronze dans la ville de La Rochelle. 2002, Médecins du Monde vous demande de créer une statue à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Vous choisissez Victor Hugo, à qui vous vouez une admiration et une tendresse particulière. Le maire de Besançon, ville natale du poète, commande cette sculpture et l'installe place des droits de l'homme. Vous décidez de créer une nouvelle série. Elle s'intitulera « Merci ». Après le général de Gaulle, en qui vous êtes reconnaissant d'avoir épargné à l'Afrique noire francophone une guerre d'indépendance, vous représentez Nelson Mandela en gardien de but repoussant les chefs d'État africains qui passent leur temps à marquer contre leur camp. Cassius Clay, Mohamed Ali, qui fit la fierté du peuple noir, Martin Luther King, par son discours « We have a dream », Gandhi. Oui, mon anglais, vous pouvez m'excuser. Édifier les monuments aux grands hommes, accepter les contraintes de la commande en ayant le courage d'être soi-même, accepter la fonction sociale du métier de sculpteur, prendre le risque d'être aussi artistiquement incorrect, nous n'y étions préparés ni l'un ni l'autre. Le succès et la notoriété apporte ces commandes qui sont aussi l'occasion d'un engagement. Aujourd'hui, dans notre académie, au fauteuil d'Andrew White, qui fut jadis celui de Joseph Haydn et de Rossini, vous rejoignez des artistes de toutes tendances et de toutes origines, venus du lointain Orient, de toute l'Europe et des Amériques. Après votre illustre prédécesseur, Léopold Sédar Senghor de l'Académie française, vous apporterez à l'Académie des Beaux-Arts votre intelligence et votre génie africain. Vous êtes l'exemple même de la richesse et de la merveilleuse diversité de l'expression artistique. Cher Ousmane Sow, vous étiez naguère sur le pont des arts, il suffisait de passer le pont et vous voici parmi nous sous la coupole. Et nous sommes heureux de vous accueillir. Sois le bienvenu. Merci.
Mon cher confrère, je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Ousmane Sow.
Monsieur le chancelier, Madame, Monsieur le secrétaire perpétuel, Messieurs les présidents, chers confrères, chers amis, je voulais être à ta place, Jean, de finir ce discours qui vraiment est un peu difficile, mais je vais essayer d'y parvenir. Rien de ce qui m'arrive cet après-midi ne m'est habituel. Roulement de tambour, décoration, un habit de prince conçu par M. Azenine Alaya, grand couturier et au talent de sculpteur, et un discours à faire, bien entendu. Vous commencez à sentir les difficultés que j'ai de le faire. Votre soutien moral et votre indulgence. M'aideront peut-être à m'adresser à vous, sans trop d'appréhension. Merci Jean, je vous remercie pour votre discours et à travers vous, tous les membres de l'Académie des Beaux-Arts qui me permettent de siéger parmi eux dans ce noble institut. Vos paroles ont été pour moi un véritable encouragement. J'ai trouvé cette amitié né lors de notre première rencontre à la fonderie de Coubertin, vous terminiez votre sculpture du général de Gaulle, tandis que je tentais ma première réalisation en bronze. En exposant sur le Pont des Arts en 1999, entre le Louvre et l'Institut, comment aurais-je pu imaginer que je traverserais un jour la voie rapide pour venir vous rejoindre? Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est grâce au président Abdou Diouf qui a proposé mon nom à monsieur le secrétaire perpétuel et grâce aussi à mon ami Jean-Christophe Ruffin qui a accompagné ma candidature. Mais je n'ignore pas que vous n'obéissez qu'à vos propres critères et qu'il ne suffit pas d'être recommandé pour être élu. Mon élection du 14 avril 2011 a d'autant plus de valeur à mes yeux que vous avez toujours eu la sagesse de ne pas instaurer un quota racial, ethnique ou religieux pour être admis parmi vous. Comme mon confrère et compatriote sénégalais Léopold Senghor, élu à l'Académie française il y a 30 ans, je suis africaniste. Dans cet esprit, je dédie cette cérémonie à l'Afrique tout entière, à sa diaspora et aussi au grand homme qui vient de nous quitter, Nelson Mandela. Avant mon élection, je connaissais peu, je l'avoue, l'œuvre d'Andrew White, mon prédécesseur. J'ai été enchanté de mieux découvrir sa peinture et particulièrement ses aquarelles. Je suis heureux de faire aujourd'hui son éloge, car nous avons des points communs. Comme lui, je cherche à transcrire le miracle de la vie. Andrew White est né en 1917 dans la banlieue de Philadelphie. Enfant fragile, il est éduqué à la maison par des tuteurs. À l'âge de 15 ans, il devient l'apprenti de son père, célèbre illustrateur. À 19 ans, il expose pour la première fois 30 aquarelles à Philadelphie. À 20 ans, c'est dans une galerie de New York qu'a lieu la première exposition personnelle. Le succès est immédiat. Plusieurs expositions personnelles vont se dérouler chaque année aux États-Unis et dans le monde. À 23 ans, il se marie. En 1943, au Musée d'art moderne, il participe à la grande exposition réaliste américain, réaliste magique. Deux ans plus tard, son père meurt dans un accident de voiture en percutant un train. En 1977, il entre à l'Académie des Beaux-Arts. Il fait ainsi partie de plusieurs académies françaises, américaines et soviétiques. Il reçoit de nombreuses distinctions aux États-Unis, à Londres, à Leningrad et à Paris. Khrouchtchev et Eisenhower aiment tous les deux ses peintures, ce qui est un exploit en pleine guerre froide. Beaucoup de célèbres visiteurs défile devant la toile de White accrochée à la Maison Blanche. Le musée d'art de Philadelphie lui a d'ailleurs remis un prix pour avoir donné à la dignité à l'art américain. Une rétrospective des œuvres de la dynastie des White, son père, lui-même, son fils Jamie White, également artiste peintre, a été organisé en 2012 à la Fondation Mona Bismarck. Andrew White fut de son vivant, comme aujourd'hui, peu visible en France, mais il est très célèbre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il est vrai qu'en France, depuis un demi-siècle, le monde de l'art contemporain s'emploie à valoriser surtout les démarches minimales et conceptuelles. L'art réaliste est un art populaire. Or, être artiste populaire a toujours été une aspiration essentielle pour moi. Andrew White était un peintre figuratif, plus inspiré par les grands maîtres classiques italiens que par le modernisme, issu d'une interprétation contestable de l'œuvre de Marcel Duchamp. Il peint les hommes, les femmes, dans toute la dignité de leurs gestes quotidiens. Il peint la nature, il la sublime, loin de l'agitation, il capte la magie de la lumière et il célèbre le silence. Lorsque j'étais enfant, écrit Wyatt, en 1995, et que les autres allaient à l'école, mon éducation se faisait parmi les champs de maïs et les bois. C'étaient mes amis. Il est possible d'apparenter la démarche d'Andrew White à celle du peintre Balthus, qui dirigea la Villa Médicis, mais fut longtemps sous-estimé, jusqu'à ce que l'historien d'art Jean Clerc impose, contre l'avis général, en 1983, une exposition au centre Georges Pompidou. À l'époque, le monde critique d'art dénonça un retour suspect du classicisme. Jean Clerc menait alors un combat qu'il mène toujours pour l'art figuratif et ce combat m'intéresse. Comme un autre grand acteur du réalisme américain, Edward Hopper, plus connu en Europe, White a enrichi l'histoire de la peinture. Il est surtout connu en dehors des États-Unis grâce au catalogue de son exposition organisée par le musée Kansas City. Dans la préface de ce catalogue, Thomas Oving, directeur du Metropole Museum de New York, explique pourquoi White n'est pas un romantique. D'ailleurs, il préfère la peinture au dessin, qu'il juge émotive, rapide et abrupte. White comparait le dessin à une sorte de coup de feu. Pourquoi White s'applique à se détacher de ses... Pourquoi White s'applique à se détacher de ses sujets? Et pour cette raison, lorsqu'il faisait le portrait de son épouse Betsy, il attendait qu'elle dorme afin de pouvoir la dessiner en toute sérénité. Il a longtemps essayé de peindre alors qu'elle était en train de cueillir des mûres, mais n'y est jamais parvenu. En revanche, les mûres, il adorait les dessiner. Il coupait une branche, la disposait dans l'atelier, puis commençait à travailler. Et à chaque fois qu'il avait terminé le dessin d'une mûre, il la mangeait avant de dessiner la suivante. White était patient. Il aimait creuser toujours le même sillon. Il conserva les années durant les mêmes modèles. Il peint aussi un de ses amis, un Afro-Américain pauvre qu'il représente avec des chaussures au bout coupé et un veston usé sur l'encolure duquel il pose une tête pleine de dignité. Il n'a pas écrit sur lui-même à propos de son œuvre, mais ses mots sont rares, sont beaux. Je ne sais jamais à un seul endroit. Quand je peignais un paysage, je vibrais, je bougeais. Il m'est impossible d'avoir l'œil photographique. Je voulais capter le mouvement de la scène, comme par exemple la majesté d'un arbre vieux de 500 ans. Il prenait son temps. Après avoir découvert l'œuvre d'Andrew Voigt, j'ai voulu savoir qui avait occupé avant nous le fauteuil numéro 6. J'ai été surpris de découvrir, entre autres, Rossini, qui m'a initié, tout comme des milliers de jeunes Sénégalais, à la musique dite classique, par le biais de la bande son d'un western, Les Justiciers du Far West. Gamin de 12 ans, nous étions chacun à la fois cavalier et cheval dans la cour de récréation de l'école Federme. Nos galops étaient rythmés par la musique du film. Nous interprétions dans une indescriptible cacophonie, sans savoir qu'il s'agissait là de l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Je ne pouvais alors imaginer qu'un siècle plus tard, je serais son lointain successeur et que je réaliserais moi-même une série sur la bataille Little Bighorn. J'aimerais maintenant vous faire partager l'extrait d'un film dont je vous ai parlé à l'instant et qui faisait fureur au cinéma Corona de Rose, Le quartier de mon enfance.
On est sans dehors.
Et si vous voulez qu'on continue, il y a trois épisodes d'une heure et demie. En Afrique, nous avons coutume de toujours remercier nos parents, avant quiconque et avec émotion. Sans doute était-ce là le fait qui a fait dire à Senghor l'émotion est nègre et la raison est laine. Ce qui lui a valu beaucoup de reproches de la part des intellectuels qui ne comprenaient pas pourquoi on ne pouvait conjuguer émotion et raison. Mais peut-être cette célèbre formule ne procédait-elle pas que de ces envolées lyriques dont le poète avait le secret. Je ne pourrais donc pas terminer ce discours sans remercier mes parents. Mon père, sans doute, peut-être, m'a appris à avoir confiance en moi. Lorsque je lui amenais des figurines taillées dans du calcaire, il semblait satisfait de les montrer à mon oncle, à ses amis, en leur faisant entendre que j'avais des dispositions. Cependant que je lui ramène de bonnes notes, ce qui était rare, et ou que j'obtienne mon certificat d'études en 1949, il me disait toujours « Je n'en attendais pas moins de toi ». J'en ressentais une certaine frustration. Je ne serais pas étonné que, là où il est aujourd'hui, entouré de la famille enthousiaste, qu'il leur dit « Je n'en attendais pas de lui, moins de lui ». Nous regrettons l'absence de M. le Président Macky Sall, qui est là où tous les cœurs convergent depuis jeudi. J'aurais aimé lui dire, comme ses prédécesseurs, le président Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor, il est à nouveau en train de faire du Sénégal un pays qui compte sur la scène internationale et que je suis conscient des efforts qu'il déploie sur le plan social. Pour cela, je suis à ses côtés. Je vous remercie, chers confrères, pour m'avoir chaleureusement accueilli parmi vous. À vous, mes amis, qui êtes venus de loin, et à vous, mes amis, qui n'avez eu que la Seine à traverser, à vous, mes enfants, à vous, mes petits-enfants, à toi, Béatrice, je vous dis du fond du cœur, merci.